Bonjour David, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Bonjour Pascal, merci de l'intérêt porté à l'ouvrage. Oui, je suis David Puot, donc je suis anthropologue de formation et puis formateur actuellement à l'IRTS Poitou-Charentes. Et puis j'ai exercé 10 ans en tant qu'éducateur de rue à Châtellerault.
Alors si on fait cette petite interview, c'est parce que tu viens de sortir à l'instant là, un bouquin qui s'appelle « Le spectre de la radicalisation, l'administration sociale en temps de menace terroriste ». Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors ce travail en fait il est lié à un travail à la base de formation action recherche avec le CNLAPS qui est le Comité National de Liaison des Acteurs de Prévention Spécialisée, ce qui m'a permis de mener une recherche action finalement sur en quoi finalement les événements emblématiques de 2015, de janvier et puis de novembre, les attentats pour être clair, ont influencé aussi l'administration sociale du fait de remaniements forts, notamment au niveau budgétaire. Alors pour de manière concrète, donc en anthropologie, nous on a une méthode d'investigation, c'est le terrain, donc c'est d'aller sur le terrain, ce qui m'était facilité notamment de par mon statut de travailleur social, d'ancien travailleur social et formateur. Donc on est intervenu avec un collègue, chef de service à l'équipe de prévention de Poitiers, auprès finalement entre février 2015 et novembre 2017 sur 12 terrains, 12 sessions de 21 heures auprès d'acteurs de terrain, qui nous a permis en fait de travailler une question, c'était la base de la réflexion, c'était de quoi la radicalisation est-elle le nom. Alors sur ce terrain, on est allé à Reims, Angoulême, Vesoul, Metz, Thionville, Paris, Dieppe, Saint-Étienne-du-Rouvray, Chaumont, Poitiers, Châlons-en-Champagne et Épernay.
Et justement, quand vous êtes allé sur le terrain, vous avez interrogé des gens concrets ou alors des personnes qui étaient en lien avec des personnes qui avaient commis des attentats notamment.
Oui, c'est la première partie du livre en fait que j'ai nommé trajectoire. Je pars d'une approche situationnelle en fait, partir de situations concrètes pour suggérer au locteur de quoi on parle, appréhender aussi la complexité des parcours des individus en voie de radicalisation ou radicalisés. Alors c'est comme cela qu'on a rencontré par exemple des professionnels à Saint-Étienne-du-Rouvray notamment qui ont croisé la trajectoire d'Adèle Kermiche.
Qui avait commis une agression.
Voilà, j'ai rencontré également d'autres professionnels qui ont pu suivre également des jeunes qui ont été déclarés radicalisés. Et l'objectif, c'était d'analyser les situations et surtout de voir en quoi ces individus ont pu être attirés par cette idéologie mortifère à un moment donné. Ce qui m'a permis aussi de rencontrer d'autres jeunes, d'autres acteurs qui ont pu être confrontés aussi à cette situation de radicalisation, voire même de suspicion forte.
Alors justement, le mot radicalisation, il n'a pas toujours, actuellement, il est lié à l'islamisme, à quelque chose comme ça, aux attentats. Il n'a pas toujours eu ce sens. Dans ton livre, tu en parles, qu'est-ce que tu dis à peu près ?
Oui, alors je reprends notamment Farhad Khosrow-Kavar qui fait la préface de l'ouvrage, dont je recommande son dernier ouvrage, qui est sorti au mois de mars. Oui, alors le mot radicalisation, en fait, il a émergé notamment aux États-Unis suite au 11 septembre 2001. Et puis on l'a vu apparaître de manière très liée à la question de la religion musulmane à partir des attentats de Toulouse et Albi, et puis surtout à partir de février 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo de janvier. Cette notion effectivement elle est accolée à une religion actuellement de manière très très forte, même s'il y a des formes de radicalisation multiples et variées à l'heure où les tensions économiques et politiques se renforcent. On pourrait parler des mouvements d'extrême droite, on pourrait parler aussi de mouvements d'extrême gauche, etc.
D'accord, donc il peut y avoir quand même une utilisation. Le mot radicalisation, il signifie quelque chose par rapport aux États-Unis, il a été importé en France, mais là, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le mot radicalisation, justement, reprenne son sens français et qu'il y ait une dérive de la répression ou du suivi de la radicalisation vers, comme tu dis, les mouvements politiques ici?
Alors la problématique, finalement, c'est qu'elle est, cette radicalisation, elle est accolée à une religion et donc elle stigmatise et elle renvoie surtout à une réponse en termes de questions identitaires, ethniques, religieuses, culturelles, et puis derrière la réponse, la première réponse de l'État, ça a été la question sécuritaire. Alors que parler de radicalisation au pluriel, parler d'islamisation de la révolte radicale par exemple, ça nous ramène la question politique, ça nous ramène la question historique, et ça nous ramène aussi la question finalement de quoi on parle derrière ces termes radicalisation. C'est le fameux débat en fait entre Gilles Kepel et Olivier Roy. Gilles Kepel indiquant qu'on a affaire à une radicalisation islamiste, et de l'autre côté, Olivier Roy indiquant qu'on a affaire à Alain Berthaud également à une islamisation de la révolte radicale. Moi, ce qui m'intéresse véritablement, c'est de quoi la radicalisation est-elle le nom, et ce qu'elle influe finalement sur les dispositifs sociaux, sécuritaires, etc. Et surtout, également, de voir comment elle travaille aussi les représentations sociales des professionnels par rapport aux usagers sur le terrain. Et en troisième lieu, ce qui m'intéressait également, c'est de voir sur le terrain, malgré ce contexte, ces amalgames entre sécurité, questions sociales, questions économiques, comment les acteurs travaillent sur le terrain à partir notamment de stratégies de civilité cas par cas. Souvent, moi, j'ose citer Gramsci, finalement, sur le terrain, il y a un certain pessimisme de l'intelligence et au contexte, assez morose dans beaucoup de quartiers ayant subi notamment la déstructuration du tissu ouvrier, mais optimisme de la volonté parce qu'il y a encore des acteurs de terrain, des acteurs sociaux, la communauté éducative, même bénévole, que ce soit également des enseignants, des profs de sport, que ce soit des associations qui œuvrent, des syndicats aussi, des militants qui œuvrent pour mettre en place des stratégies de civilité pour atténuer les tensions identitaires et sociales.
Alors toi, quand tu parles de ce problème-là, tu parles du spectre. Pourquoi tu parles du spectre, le mot spectre, il renvoie à quoi pour toi ?
Le spectre, en fait, parce que finalement, ce qu'on entend depuis maintenant trois ans maintenant, on est en 2018, c'est que finalement, on ne sait pas comment cibler cette nouvelle offre radicale. Elle est évanescente au niveau géopolitique. Il y a le spectre de la toile numérique.
Internet.
Il y a aussi le spectre du non-lieu. D'ailleurs, c'est une des stratégies de Daesh, de dire passer à l'acte par n'importe quelle manière. Il y a encore une déclaration récente du porte-parole, du responsable de Daesh, qui appelle à passer à l'acte par tous les moyens. Donc on ne sait pas où ça peut se passer. Ça peut se passer en campagne, ça peut se passer dans un lieu culturel, ça peut se passer dans un train. Donc spectre aussi du lieu, mais il y a également différentes formes de spectre. Le spectre aussi intime, c'est-à-dire qu'on est tous liés également à cette question. C'est-à-dire quand on voyage, par exemple, quand on se retrouve dans une salle de concert, moi il m'est arrivé de surveiller les entrées, de regarder un petit peu ce qui se passait. Donc l'attentif ensemble, le fameux panneau dans les gares, soyons attentifs ensemble. Donc spectre intime, mais également spectre des infiltrés. Il y a une situation dans le livre que je décris, effectivement, il y a de nombreux responsables, moi, associatifs, même dans l'animation socioculturelle, qui m'ont indiqué qu'ils avaient la crainte d'avoir des infiltrés dans leurs équipes, des professionnels, donc, qui sont là pour faire du prosélytisme auprès des jeunes. Alors, cette question du spectre, c'est quelque chose d'évanescent, c'est quelque chose de flou, qui permet en parallèle de faire passer d'autres offres. La question sécuritaire, elle s'est renforcée. C'est une des hypothèses de l'ouvrage, je veux dire, qu'on est passé aussi de la figure de la racaille au potentiel délinquant lié aux émeutes de 2005 avec la loi emblématique de prévention de la délinquance 2007 à une figure finalement du radical, le radical étant au potentiel terroriste voire même criminel. Donc à travers cette figure du radical, il y a aussi un renforcement de stigmates identitaires très très fort envers des jeunes, notamment des quartiers populaires issus de l'immigration de seconde ou troisième génération. Donc c'est en même temps, c'est le paradoxe total de livre, c'est véritablement on ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais en même temps il y a un renforcement du stigmate par rapport à cette figure de la radicale envers une frange de la population française.
Alors tu as parlé de la répression, mais toi comme ancien travailleur social et puis formateur actuellement, il y a une grosse partie sur l'administration sociale. Est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce que ça, en quoi les attentats et la réponse aux attentats ont influencé l'administration sociale, sa façon de faire, ses priorités, etc.
Bon, les métiers d'éducateur au sens large du terme, les métiers de l'enseignement, on sait qu'il y a une fonction de gestion des marges, on sait qu'il y a une fonction de contrôle social, mais il y a également, et c'est ce que j'essaye d'enseigner aux étudiants et puis de ce qui m'a porté aussi dans ma carrière d'éducateur, il y a une fonction d'émancipation sociale aussi, fonction politique au sens large du terme dans ces métiers. Mais avec le contexte des attentats, ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est qu'il y a un renforcement finalement, pour reprendre Foucault, du continuum médico-socio-sécuritaire, au sens où il y a un renforcement des liaisons entre des services de renseignement, les services sécuritaires, les services de la justice, avec les services sociaux, les services de l'enseignement. C'est comme cela que moi j'ai pu entendre des assistantes sociales, par exemple, soumises au secret professionnel par fonction, être interpellées par des renseignements territoriaux, des agents des renseignements territoriaux.
Les anciens RG,
pour évoquer un suivi d'une situation. Donc elles avaient presque l'injonction de participer à la sûreté de l'État.
Et il y a aussi une question de choix de financier de l'État par rapport à ça.
Oui, alors il y a un révélateur assez simple à observer. La loi prévention délinquance 2007, elle a créé le FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui avait pour but notamment de mettre des actions pour les professionnels sur le terrain envers ces jeunes, entre guillemets, délinquants. Suite aux attentats de Charlie, un an après, je crois que c'est en 2016, on a eu la création du FIPD, ils ont ajouté un R, Fonds interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc désormais, il est clair que l'État a mis des enveloppes budgétaires conséquentes sur la question de la détection et du repérage, notamment de ce bas spectre qui est le plus difficile à capter ces hésitants sur le terrain. Et donc là, les acteurs sociaux de proximité, la communauté éducative au sens large du terme, que ce soit les enseignants, que ce soit les bénévoles, que ce soit les associations sportives, que ce soit les travailleurs sociaux, ont également été formés à cette question de la détection et du repérage du bas spectre, comme le nomme l'État.
Mais en même temps, c'est là où il y a l'argent. C'est à une époque de disette des services publics sur la question de la radicalité, la lutte contre la radicalisation. C'est là où il y a des sous. Quoi.
C'est le paradoxe aussi de la question. Il y a beaucoup de paradoxes dans cet ouvrage, mais plutôt sur la question, cette administration sociale, ces remaniements. C'est que finalement, suite aux attentats de Charlie Hebdo, on a reparlé du travail social au niveau national. Je me souviens de l'article de Wissa Kies dans Le Monde, privilégiant le travail social 15 jours après les attentats, un article dans le monde sur le travail social, faut chercher. Ce que je veux dire, c'est qu'on a reparlé du travail social, mais d'une manière assez circonscrite, c'est sur la question de la détection et du repérage de ce bas spectre que j'évoquais juste avant. Et sur le terrain, ces remaniements, en fait, induisent finalement quelque chose d'assez étonnant. C'est véritablement une hiérarchisation des priorités. Par exemple, sur des situations lambda qui auraient pu être traitées autrement avant 2015, il y a un amalgame entre protection de l'enfance, prévention de la délinquance et prévention de la radicalisation. Et donc, sur certaines situations, c'est complexe pour les professionnels d'appréhender comment intervenir finalement.
Alors le bouquin il termine par un chapitre qui trace des pistes pour s'en tirer. C'est-à-dire il n'y a pas qu'un constat qui est assez complexe mais assez négatif aussi. Il y a aussi des gens qui travaillent et qui offrent des possibilités. Toi tu parles de stratégie de civilité et d'empathie méthodologique. Hein.
Alors, stratégie de civilité, je reprends à Étienne Balibar, le philosophe, qui pour lui, en fait, les stratégies de civilité permettent de créer de l'anti-violence, non pas de la contre-violence. C'est-à-dire qu'à la violence symbolique étatique, on va dire ça comme ça, répondre par une autre forme de contre, on produit une contre-violence qui est assez peu productrice. Donc, l'anti-violence, ça serait d'annihiler finalement cette violence symbolique et essayer de l'atténuer pour être plus... humble. Donc les acteurs de terrain dans les quartiers notamment continuent de travailler. Ils mettent en place des actions, des débats, conflictualiser aussi les échanges avec les jeunes.
Et en présentiel, c'est-à-dire physiquement, les gens sont présents, c'est pas par internet.
Par exemple, à la Méno, à Strasbourg, ils ont mis en place des rencontres régulières entre des jeunes du quartier, l'imam du quartier, un prêtre, des éducateurs de rue, des animateurs, des bénévoles, et puis régulièrement ils parlent de ces questions-là et ils osent même la conflictualisation et entendre l'inaudible quasiment de la parole de certains jeunes peuvent avoir des aspirations ou des inspirations envers ce type d'idéologie. Et donc ça permet en tout cas de parler. Les lieux de parole sont vraiment importants. Mais ça peut être des actions toutes bêtes, c'est un barbecue dans le quartier où se retrouvent finalement les habitants, les bénévoles, les professionnels. Ça peut être un match de foot ou une salle de sport pour la Coupe du Monde. Voilà, des petites choses qui permettent de faire du commun.
Alors tu parles aussi d'empathie, parce que c'est pas un mot qu'on rencontre souvent.
Alors l'empathie méthodologique, c'est à double effet. L'empathie méthodologique, c'est une méthode d'enquête, au sens où trouver des points d'accroche avec l'enquêté pour lui permettre aussi de discuter, de parler. Alors c'est, pour moi, dans cette histoire, dans ce livre, c'était facilité par ma fonction de travailleur social. Mais c'est la méthodologie, c'est-à-dire qu'on a un objet de recherche derrière, et ça nous permet également de travailler de manière sensible un sujet pour avoir des informations plus percutantes. Et l'empathie méthodologique pour les professionnels, c'est véritablement de travailler une distanciation aussi avec la personne suivie. C'est-à-dire l'empathie, c'est pas la sympathie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fusion des émotions. Il y a également une distanciation, une compréhension, mais on ne va pas fusionner avec l'émotion de l'autre. Et donc méthodologique parce que l'objet, c'est également, c'est par exemple sur cette question de la marginalisation, c'est de tenter de reconnecter cet individu à la société en lui garantissant ses droits, en l'aidant, en étant des passeurs vers d'autres institutions, etc., pour atténuer cette marginalisation ou voire même ses aspirations d'hésitants envers des idéologies extrêmes, pas forcément liées à la religion, mais ça peut être par exemple à des courants d'extrême droite malheureusement qui augmente ces dernières années.
Bon, mais je te remercie, et puis moi j'invite les lecteurs à lire un bouquin qui est absolument indispensable à l'époque actuelle.
Merci à toi.